Bonjour Mariana Otero.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin pour la présentation de votre film « Histoire d'un regard » dans lequel vous retracez la vie à travers les images de Gilles Caron. Gilles Caron est un photographe qui a eu une carrière fulgurante puisqu'il est mort à l'âge de 30 ans. Il a disparu en 1970, en avril 1970 sur une route du Cambodge. On n'a jamais retrouvé son corps. Et il a eu une carrière fulgurante puisque à 30 ans, il n'avait pas eu le temps de faire beaucoup d'images. Cela dit, il a fait beaucoup d'images en peu de temps plutôt.
Oui.
Il a tourné un certain nombre d'images en 6 années. Et vous allez nous raconter comment vous êtes venu à faire un film sur Gilles Caron que vous n'avez pas connu, dont vous connaissiez certaines images comme nous tous, puisque ces images, je le disais tout à l'heure, appartiennent à notre mémoire collective. C'est souvent le cas d'ailleurs de certains photographes. On voit des images très fortes, très connues, on ne sait pas à qui elles appartiennent. Et là, on découvre que c'est de lui.
Voilà, donc moi, c'est exactement ça qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu le hasard qui a fait que j'ai fait ce film. C'est un scénariste, donc Jérôme Tonnerre, qui a fait les scénarios de Claude Sauté, récemment Sandrine Bonner, enfin voilà, que je ne connaissais pas et donc qui a laissé à mon producteur ce livre qui est une sorte de biographie de Gilles Caron. Donc j'ai commencé à le feuilleter, j'ai vu des photos effectivement que je connaissais sans connaître le nom de celui qui les avait faites. Et puis, bon, me disant mais pourquoi il pense que ça peut m'intéresser, c'est un photoreporter de guerre, moi je suis jamais allé plus loin que la frontière belge, je filme plutôt l'histoire de gens ordinaires dont je montre l'aspect extraordinaire, mais voilà, c'est pas des événements comme ceux qu'a photographié Gilles Caron. Et puis à la fin du livre, je tombe donc sur, d'abord je comprends qu'il a disparu à 30 ans, sans qu'on sache ce qui lui est arrivé, et puis je tombe donc sur un de ses derniers rouleaux où on voit donc à la fois des soldats cambodgiens, mais aussi ces petites filles qu'il avait photographiées juste avant de partir, dans un jardin en hiver avec un bonnet, voilà. Et cette image me fait tout de suite écho avec un dessin que ma mère a fait de ma sœur et moi avant de décéder. Et pour moi, c'était une disparition aussi, puisqu'on m'avait pas dit qu'elle était décédée. Donc il y avait quelque chose d'un peu similaire. Et elle nous avait dessiné aussi avec des bonnets dans un jardin en hiver. Et cette espèce de concordance des deux images, pour moi, ça a été comme un signe, comme une invitation, un appel à m'intéresser.
Puisque vous avez aussi perdu votre mère, voilà, quand elle avait 30 ans.
Voilà, 30 ans, 1968.
Et elle était peintre.
Voilà, 1968, 30 ans, enfin plein de choses comme ça, et cette image en fait. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser, sans me dire tout de suite que j'allais en faire un film, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, travailler sur un photographe, sur des photos, etc. Donc j'ai d'abord rencontré la famille, j'ai compris que la disparition, enfin qu'il n'y avait rien à chercher du côté du Cambodge, que le corps de Gilles Caron resterait absolument introuvable, parce qu'il y avait déjà eu des recherches et c'était, voilà, rien, ça n'avait rien donné. Et donc, la Fondation Caron m'a confié les 100 000 photos numérisées. Et là, j'ai commencé à me plonger dans ces photos. Et je me suis dit que le corps de Gilles Caron, j'allais pouvoir le retrouver à travers ces photos. Et que donc, j'allais aller à la recherche de Gilles Caron, juste en regardant ces photos et en cherchant à la fois ses cheminements physiques et ses cheminements intellectuels.
On peut peut-être en donner quelques-unes très célèbres pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Cette photo, par exemple, d'un Daniel Cohn-Bendit très jeune, on est en 1968, qui sourit face à un policier.
Oui, alors Mariana Otero, c'est vraiment la photo qui représente mes 68 dans le monde entier. Hein. C'est d'ailleurs par là que j'ai commencé. C'est-à-dire, je me suis dit bon, je connais cette photo, je connais le lieu où elle a été prise, donc ça va être plus facile pour moi de comprendre comment il a fait. Donc je m'intéresse aux deux planches contact autour de voilà qu'il a faites autour de ça. Et puis en regardant, je vois la première planche contact et j'ai l'impression donc il a fait la photo très vite en fait, à peine en 30 poses, il arrive à la photo et je me dis. Ah bon, finalement, c'est juste la chance, le hasard. Je suis un petit peu déçue d'une certaine façon. Puis je regarde la planche contact suivante. Et là, je me dis, c'est marrant, il cherche la même chose, mais en moins bien. Ça me paraît étrange. Et du coup, je me dis, mais peut-être qu'en fait, elles sont classées à l'envers. Donc je les mets dans l'autre sens. Et là, je découvre, en fait, qu'il a cherché, en fait, à faire cette photo. Depuis un certain temps, il cherchait à photographier Cohn-Bendit face aux policiers. Et pendant plusieurs photos, deux pellicules, avant d'arriver à celle qui est devenue célèbre.
Et c'est ça qui est très beau dans votre film Mariana Otero, c'est que précisément vous faites tout ce travail archéologique pour essayer de comprendre comment il a travaillé en vous mettant dans sa tête d'une certaine façon, en disant tiens, j'arrive là, il arrivait là, d'ailleurs vous vous adressez à lui en disant tu as dû faire ça, là tu es arrivé là, etc. En disant de reconstituer ce qui s'est passé pour découvrir les photos, vous remettez les rouleaux dans l'ordre, puisque parmi ces 100 000 clichés, ben, elles sont tous dans le désordre, donc c'est un énorme travail. Et ensuite vous nous racontez l'histoire voir en image de ce travail formidable qu'a été le sien. C'est pour ça que c'est vraiment une histoire d'un regard. Peut-être même, Mariana Otero, on pourrait dire que c'est l'histoire d'un double regard.
Absolument.
Puisqu'il y a le sien sur le monde de l'époque, on va y venir, témoin majeur de son époque, et le vôtre ensuite sur ces photos.
Oui, c'est ça, c'est un double regard, quoi. Je raconte vraiment ces deux histoires. Et donc, pour arriver à... Ça a été la grande partie du travail, ça a duré à peu près 6 mois, où il a fallu, comme vous disiez, que je remette en ordre ces photos. Parce que les agences, à l'époque, recevaient les rouleaux dans un ordre... Enfin, il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de numéro. C'est les agences qui mettaient les numéros de façon aléatoire, sans avoir regardé ce qu'il y avait dedans. Et donc, moi, pour comprendre le cheminement physique et intellectuel de Caron, comme c'est ça qui m'intéressait, pour lui redonner une présence, pour l'accompagner, il fallait que je remette en ordre. Et c'est vrai que c'est un travail d'archéologue ou l'enquête policière, hein, presque. Mais c'était absolument passionnant, totalement chronophage, totalement obsessionnel. Alors, je ne l'ai pas fait toute seule. J'ai été aidée par une jeune étudiante en réalisation, Garance Lebars, qui m'a vraiment aidée. Je cite son nom parce que quand même, 6 mois de travail où toutes les deux, on s'est pris la tête sur est-ce que ça c'était avant, est-ce que ça c'était après, à regarder les petits détails, les taches dans les murs, enfin, la fleur que cueille Moshe Dayan sur le mur des Lamentations, c'est assez extraordinaire. Tous ces petits détails nous ont permis de mettre dans l'ordre. Et après, il a fallu faire un immense zoom arrière pour pouvoir construire le film et raconter à la fois, effectivement, l'histoire de Gilles Caron, en passant par l'histoire de ma découverte pour entraîner le spectateur derrière moi aussi.
Et en suivant d'une certaine façon cette chronologie, alors vous commencez par mai 68, cette photo-là, vous y passez du temps, et ensuite on revient un peu en arrière, justement au mur des Lamentations, cette guerre des 6 jours en 1967, où Gilles Caron a passé du temps, on va y venir, et puis l'Irlande du Nord, le Biafra, le Vietnam, c'était un témoin majeur de son époque, Gilles Caron, quand même.
Oui, il est devenu célèbre très très vite, hein, c'est assez incroyable, c'est-à-dire son premier grand reportage de guerre, c'est en Israël, et là, il arrive avant tous les autres journalistes et tous les autres photoreporters sur le mur des Lamentations avec l'armée israélienne. Il y arrive parce qu'il est extrêmement culotté, courageux, au lieu de prendre le bus où il y a tous les reporters, lui, il prend une voiture, et là, il fait donc des photos qui vont être publiées dans le monde entier. Et à partir de là, il fait tous les grands événements de l'époque. Il est appelé pour faire par l'agence Gamma, il travaille à l'agence Gamma, et il fait tous les plus grands reportages. Ce qui fait qu'il va se poser toutes les grandes questions qu'un photoreporter peut se poser au cours de son travail, c'est-à-dire à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment utile ce que je fais, est-ce que ça suffit d'être juste un témoin, est-ce que le risque que je prends vaut la peine d'être pris, est-ce que accumuler les reportages comme ça les uns après les autres, ça a du sens. Et c'est ça que le film parcourt aussi, c'est tous ces questionnements qu'il se pose en faisant des reportages dans, comme vous avez cité, des grands moments qui aujourd'hui encore... nous concerne encore, hein, la guerre des 6 jours, évidemment. Le Biafra, c'est la première fois qu'une famine est photographiée, qu'il y a une aide humanitaire qui se met en place. L'Irlande du Nord, le conflit est encore, c'est encore très tendu, quoi, même s'il y a eu les accords de paix en l'an 2000. Voilà, il y a tous les grands événements qui, aujourd'hui, quelque part, sont encore une actualité, d'une certaine manière.
Et votre démarche à vous, Mariana Otero, est souvent la même, en tous les cas le dispositif, puisque vous passez en revue les photos d'un reportage en racontant l'histoire autour. Dans cet exemple que vous venez de citer de la guerre des 6 jours et du mur des Lamentations, vous avez fait appel à un intervenant, on appelle ça comme ça, dans votre film, qui est l'historien Vincent Lemire, un spécialiste du Proche-Orient et de la ville de Jérusalem. Je voudrais qu'on écoute un extrait de cette rencontre entre vous, lui et les photos de Gilles Caron.
Alors, il y a un truc donc assez étrange pour moi là, un peu émouvant et un peu troublant, c'est que donc je suis, ça fait quasiment 3 ans que je travaille sur 10-11 juin 67. Alors là, à ces photos-là, on est le 7 juin. Enfin, c'est toujours pareil, c'est l'historien obsessionnel, quand on n'a pas tous les documents sur la table, on se dit qu'il y a peut-être la photo, enfin... Mais il a l'air d'être très très près quand même des combattants qui prennent la ville, hein, parce que là, c'est intéressant de voir quand il fait des photos et quand il n'en fait pas. Parce que, donc quand il rentre dans la vieille ville, on sent qu'il est un peu lui-même... il fait 1, 2, 3, 4, 5, et puis là, s'il prenait à gauche, il irait sur l'esplanade des mosquées.
Non, juste après, c'est celle-là.
Ah bah voilà, ah bah ok. Bah donc il y a été tout de suite. Il en fait 2 ici, Et ensuite, il est là. Il n'est plus sur l'esplanade des mosquées, il est devant le mur des lamentations. Et
on va... Ici, ça,
ouais,
ça
ouais, ouais. Ah oui, il est là, c'est sûr. Alors, mais ce qui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des soldats. Pourquoi il prend cette... Pourquoi il photographie par là? Le mur, il est là. Il s'est mis au bout et il photographie comme ça. C'est curieux, en fait, qu'il fasse ça.
Alors, quand Gilles Caron va arriver sur le mur des Lamentations, il ne sait absolument pas que c'est le mur des Lamentations.
Ah ben, c'est génial. Ben alors, la photo, là, ça correspond complètement. Ouais, et après, si, il doit quand même... quand même, il se rend compte qu'il y a des soldats qui, oui, qui sont quand même voilà, en train d'embrasser le mur. Alors, et donc, il se dit... Là, je pense qu'il est... là, il sait qu'il faut qu'il fasse des photos, quoi. Pour ça, là, tac, 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 il déclenche, là, quand même. Hein. Oui. Il s'est quand même mis au bon endroit, parce que ça doit bousculer partout... Il veut, ça y est, il a compris que c'est ça le truc, enfin qu'il faut avoir le mur, quoi. Et ça, donc, pour moi, c'est un peu fou. On a sous les yeux, je pense, la dernière photo du quartier maghrébin, puisqu'il va être rasé dans les heures qui suivent. Là, il y a 800 personnes qui vivent, qui sont là, hein, dans leur maison, pendant qu'il prend la photo, et qui ne savent pas que 48 heures après, ils seront expulsés en 2 heures.
Bon alors là, Mariana Otero, évidemment, il manque à tout le monde qui nous écoute les images, mais qu'on voit évidemment dans votre film. Cela dit, on se les visualise, hein, les images en l'occurrence, quand on entend votre discussion avec l'historien Vincent Lemire. Qu'est-ce qu'elles ont de singulier, ces photographies de Gilles Caron? Maintenant que vous les avez épluchées dans tous les sens, regardez, qu'est-ce que vous diriez de lui?
Moi, ce qui m'a vraiment touchée dans ces photos, c'est la manière dont en fait Gilles Caron se... Au-delà de l'événement, ce qu'il photographie, c'est des gens. C'est à chaque fois, il y a quelqu'un dans ces photos. C'est-à-dire que c'est pas seulement... Même les enfants bien frais qui subissent la famine et qui... Il y a quelqu'un. C'est-à-dire, il arrive, c'est cet enfant-là. C'est pas... chaque personnage qu'il photographie n'est pas juste le représentant d'une situation de guerre. C'est aussi... On sent, on perçoit l'histoire de quelqu'un. Il y a une vraie rencontre. Alors il le fait soit en photographiant les corps, il y a souvent des plans un peu, enfin je dis des plans hein, parce qu'il y a quelque chose de très cinématographique en fait dans le travail de Gilles Caron, soit comme ça c'est des plans larges avec des corps, soit c'est des visages avec des regards, il y a une présence quoi, et ça me semble très très particulier.
C'est ce qui fait, Mariana Otero, que vous avez pu faire un film qui donne autant de présence à quelqu'un qui n'est plus là. C'est-à-dire que on se demande, quand on regarde votre film, comment on arrive à faire pour partir d'une disparition et faire un film où l'on sente une aussi forte présence. Vous diriez que c'est votre regard à vous, mais c'est d'abord les photos qui éclatent finalement au visage de celui
oui,
qui regarde.
C'est les photos, bien évidemment, et puis c'est la manière aussi dont, enfin, je pense que c'est le récit aussi qui fait le fait qu'on comprenne justement comment il s'est approché de tel ou tel personnage, comment il a fait la photo, qui fait qu'on effectivement sa présence surgit. C'est vraiment l'objet du film. Hein. C'est un peu comme dans Histoire d'un secret, c'est-à-dire
votre film de 2003 sur le secret de famille.
Voilà, à partir des tableaux de ma mère était peintre, et donc pour moi la photo, elle est évidemment il y a l'événement, mais elle y a ce qu'elle représente. Mais moi, ce que j'ai cherché à faire apparaître, c'était celui qui la représente aussi, on va dire. Vous voyez, donc comme la peintre, c'était de faire apparaître derrière le tableau le moment où la peinture avait été faite. Là, c'est pareil, c'est-à-dire faire apparaître celui qui les a faites, quoi. Et ça, avec différents dispositifs, c'est-à-dire dans le film, à chaque fois, j'entre dans les reportages de façon différente. Donc, comme vous avez cité, l'historien, l'Irlande du Nord, rencontrer des gens, enfin, de façon très, très vivante, pour que... Il soit là, effectivement, de façon à chaque fois différente, il est là.
Oui, parce qu'en Irlande du Nord, vous avez retrouvé quelques-uns des photographiés de l'époque, qui étaient parfois des enfants à l'époque, et qui sont devenus grands, ou qui connaissaient quelqu'un qui a été photographié à l'époque, et on les voit, vous les mettez face à ces images. Il y a un photographe français qu'il a très très bien connu, pour la bonne et simple raison que c'est grâce à lui que Gilles Caron est entré à l'agence Gamma, c'est Raymond Depardon. Écoutez ce que disait Raymond Depardon de Gilles Caron, c'est une archivina sur France Inter en 2002.
Gilles était un photographe formidable, qui était un photographe moderne. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était conscient, qui avait une conscience politique. C'est-à-dire qu'il lisait les journaux, il réfléchissait et il partait avant même que l'événement se déclenche, en disant sans doute il va y avoir quelque chose, c'est forcé qu'il va y avoir quelque chose. Et c'était quelqu'un d'assez entier, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui photographiait près des gens, Parce que comme toutes les photos de guerre ou les photos d'action, etc., il faut être avec les gens, c'est pas au téléobjectif. C'est avec qu'il y avait une responsabilité, il sentait une responsabilité morale. Et je crois que j'étais vraiment le plus proche de lui. Parce qu'on parlait beaucoup, on allait au cinéma, on discutait, on se rencontrait au petit Suisse derrière le Luxembourg. Et il était quelqu'un qui avait vraiment... D'abord, c'est vraiment le grand témoin, le grand photographe de mai 68. Et je pense que c'était quelqu'un qui adhérait complètement à ce qu'il faisait.
Voilà, vous êtes d'accord avec ce que dit Raymond Depardon, hein, Marianne Hétéro.
Oui, c'est...
Vous l'avez pas rencontré pour le film?
Alors, évidemment, moi, quand j'ai écrit le film, c'est un film très écrit, donc où j'avais prévu comme ça les scènes, même si à l'intérieur, il y a des scènes documentaires.
C'est une narration.
Scène, voilà, c'est une narration, et à l'intérieur, il y a des scènes totalement documentaires. Et j'avais écrit dans le projet que j'allais rencontrer Depardon et qu'il ferait partie du film. Parce que pour moi, c'était... Il y avait une forme d'évidence. Effectivement, c'est Depardon qui a fait rentrer Gilles Caron à Gamma. Il a été là dans tous les moments importants de sa vie. Il a été là avec lui au Biafra. Il a été avec lui au Tchad. Il a été là... C'est lui qui l'a accompagné à l'aéroport pour aller au Cambodge. Donc je lui ai évidemment demandé de participer au film. Et en fait, il n'a pas voulu parce que je pense que pour lui, c'est quelque chose de très très douloureux, la disparition de Gilles Caron. Et voilà, il en parlait à une certaine époque, mais maintenant, il a plus envie d'en parler.
Le Tchad, le Biafra, le Vietnam, des zones de conflit, des zones de guerre qu'il a couvert, mais aussi un travail quand il revenait à Paris, la plupart du temps il y passait à Paris, un quotidien où il travaillait pour Paris Match, hein, essentiellement, un quotidien qu'il le faisait photographier des people, faire des portraits, à l'Olympia par exemple. Alors il y a peu d'enregistrements de sa voix, vous le dites dans le film Marianna Otero, il y en a quelques-uns, on en a relevé un dans votre film, donc la voix rare de Gilles Caron.
Il n'y a pas tellement de différence entre courir la guerre en Israël et faire la première à l'Olympia. Exactement. Pour moi, c'est pareil. Vous allez faire la première à l'Olympia, eh bien, c'est un truc, il faut être drôlement bon pour couvrir un truc comme ça. Je veux dire, c'est toute une suite de petits machins. Ce qu'on vous demande le lendemain, bon, c'est les gens au premier rang, tous les gens qui sont assis.
Ça, oui.
Sur les gens qui sont assis, il y en a toujours un ou deux, c'est meilleur que les autres, parce que c'est plus exceptionnel. Il faut trouver à chaque fois la petite histoire, truc-muche avec truc-muche, qu'on va vendre le lendemain, France Dimanche ou ici Paris, tout ça. Mais on ne peut pas ne pas faire aussi la personne sur scène. Il faut faire la personne sur scène. Pour faire la personne sur scène, applaudie par les gens dans la salle. Il faut avoir le temps de faire et le salut et se retrouver derrière le rideau avec elle pour être avant les gens qui arrivent, pour lui serrer la main, pour pouvoir être le premier dans les coulisses. Ah, mais vous vous rendez pas compte, la bousculade que ça, parce qu'une loge d'artiste, c'est moitié grand comme ça, il y a une porte qui est grande comme ça, et il y a 300 personnes qui essayent de rentrer en même temps. Alors pour faire des photos qui ne passent jamais, mais qu'il faut couvrir. Je sais pas pourquoi, mais il faut le faire. Alors on est le pauvre crétin de paparazzi, là, qui se bouscule, vous savez, qui se jette dessus ce qu'on voit toujours. Hein. Eh bien, le gars qui fait ça bien et régulièrement bien, c'est un type qui sera bon sur autre chose. C'est pas possible autrement, parce que c'est un type qui aura, à chaque fois, il aura l'œil, il sentira le moment auquel il faut qu'il parte, etc.
Voilà la voix de Gilles Caron, Marianna Otero, un type qui était capable finalement de photographier effectivement des scènes de quotidien, des individus pris dans un amphithéâtre ou à l'Olympia, et puis d'aller se mettre au cœur de l'action dans des zones de guerre. Et ils sont pas beaucoup comme ça.
Oui, là c'était un témoignage qui était... Alors effectivement, il y a qu'un seul interview qui existe, hein, c'est avec cette voix un petit type parisien, enfin quelque chose comme qui correspond pas forcément à ce qu'on imagine d'un photoreporter, enfin du cliché comme ça. Il y a aussi un moment où il est filmé très très court. Hein. Il est passé à la télé pour parler du Biafra
avec Pierre Sabaye comme journaliste.
Et il parle très peu. Enfin, c'est
plutôt quelqu'un de taiseux.
Voilà. Ouais. Et là, quand il raconte son travail, là, c'est très précis en même temps. Et effectivement, son quotidien, c'était d'abord les people, les hommes politiques. Et il y a une grande humilité, je trouve, chez Gilles Caron, qui m'a aussi beaucoup touchée. C'est pour ça que je tenais absolument à mettre ces moments comme ça. Il a très peu théorisé, très peu laissé de choses sur son travail. Donc, c'était très précieux d'avoir ça dans le film.